Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. L'un est iranien, Omid, l'autre est afghan, Safiullah, et tous deux ont fui leur pays en 2015 à quelques mois d'intervalle. Ces réfugiés d'une vingtaine d'années sont tous deux passés par la jungle de Calais, ce camp rasé il y a bientôt deux mois, porte de passage vers le Royaume-Uni pour les plus chanceux. Omid a fini par atteindre l'Angleterre dont il rêvait, alors que Safiullah a décidé d'y renoncer pour s'installer en France. À Concarneau, plus exactement, une commune de 20 000 habitants située à l'ouest du pays, portrait croisé de deux réfugiés qui n'ont désormais qu'un objectif, s'intégrer. Mayouen Bordron.
Le geste est assuré. Muni d'une fourche, Safiullah, 23 ans, déblaye un chemin communal. Il a trouvé ce travail dans une association d'insertion il y a un mois.
Aujourd'hui, je coupe des herbes et ramasser des feuilles dans le chemin avec fourche. Pour moi, c'est facile un peu parce que je suis adapté avec ce travail. Et déjà, j'ai travaillé beaucoup dans le jardin et l'agriculture. Déjà en Afghanistan.
Il y a un an, Safiullah ne savait même pas dire bonjour en français. Aujourd'hui, le réfugié afghan comprend toutes les consignes de son chef, Serge Filouz.
Donc là, tu vas manipuler la machine, non pas comme tu faisais de gauche à droite,
oui,
mais de bas en haut.
Comme ça.
Ouais. Parce que la lame, qui est à tout bout, qui se trouve là, elle va broyer. De temps en temps, tu feras aussi de gauche à droite, mais tu vas être obligé de faire de haut en bas.
D'accord.
Donc tu fais, tu vois, parce que c'est en hauteur, donc tu fais tout ça. Ouais.
Safiullah est arrivé à Concarneau au mois de juin, mais c'est à Rennes, une autre ville de Bretagne, qu'il a d'abord atterri juste après avoir quitté Calais. Dans cette jungle, comme il dit, il est resté un peu plus d'un mois pour passer en Angleterre, mais en vain. Ce sont des bénévoles de la Croix-Rouge qui l'ont convaincu de déposer sa demande d'asile en France. On est en janvier 2016, Safiullah a le choix entre un bus pour Dijon ou Rennes. Les bénévoles lui ont dit qu'il y avait la mer en Bretagne, alors il décide de monter dans le deuxième. Omid, lui, vit désormais à Londres, dans un quartier populaire à l'est de la ville. Il est resté 6 mois dans la jungle de Calais. La frontière était impénétrable jusqu'à un soir de mai. L'Iranien de 26 ans finit par monter dans le bon camion, aidé par un passeur.
On était 13 à l'intérieur. Le chauffeur démarre le camion. Il arrive au contrôle de sécurité. On passe le premier, le second, on arrive au troisième. C'est le dernier contrôle, là où les chiens peuvent détecter la présence humaine. Mais cette fois-là, ils ne nous ont pas trouvés. Le camion monte dans le ferry. Oh mon Dieu, on est dans le ferry. C'était mon rêve. Si tu arrives au ferry, tu vas au Royaume-Uni.
If you go to the ship, you are in UK.
Omid n'avait que ce pays en tête. Il en avait entendu parler par certains de ses amis. Et puis surtout, il parle anglais. Pas besoin d'apprendre une autre langue. C'est pourtant ce qu'a dû faire Safiullah à son arrivée en Bretagne. Depuis un an, il prend des cours de français.
La comparatif et les superlatifs. Paul est plus riche que Jean.
Que Jean.
Mais il travaille moins. Le diesel est moins cher que l'essence, mais elle pollue plus.
Oh, lequel c'est le comparatif?
François est un bénévole de 68 ans. Tous les mercredis soirs, il retrouve son élève dans les locaux de l'association La Plume Bleue. Objectif, l'obtention d'un diplôme pour Safiullah, comme un CAP, un certificat d'aptitude professionnelle de plombier ou de couvreur.
Une épreuve de français. Donc moi j'aimerais bien commencer à préparer avec lui pour qu'il ait un niveau suffisant, surtout pour l'écrit, parce qu'à l'oral oyé, il se débrouille correctement.
Les études, Safiullah, ça ne l'effraie pas. Au contraire, il aime ça. En Afghanistan, il venait juste de commencer un master d'économie. Omid, lui, étudiait l'architecture en Iran. Aujourd'hui, il ne sait plus exactement ce qu'il veut faire.
Maybe I change
Peut-être que je changerai, que j'étudierai autre chose. J'aimerais faire du droit. Peut-être que je changerai d'idée. Mais je vais étudier, j'en suis sûr.
Il a le droit à 5 livres, soit 6 euros par semaine. À peine de quoi payer un ticket de métro à Londres. Mais Omid va bientôt pouvoir travailler. Sa demande d'asile a été acceptée début décembre. En attendant, l'Iranien de 26 ans tue l'ennui dans une petite maison prêtée par le gouvernement britannique. Son passe-temps préféré, regarder des vidéos sur son portable dans sa langue maternelle, le kurde. Omid vit ici avec 5 autres réfugiés, un Irakien, un Soudanais et 2 Iraniens. Comme lui, ils ont fui la République islamique d'Iran. Aujourd'hui encore, Omid a du mal à évoquer les raisons de son départ.
We was a group in Iran.
On avait un groupe en Iran qui déplaisait au gouvernement. C'était un groupe qui avait des idées différentes sur la religion, une autre religion que l'islam. J'ai pas trop envie d'en parler.
I think we don't speak about this more.
Omid préfère en rire comme pour cacher sa gêne. En Iran, il est impossible de se convertir. Un musulman ne peut pas devenir chrétien. Alors il a fui les menaces du gouvernement autoritaire. Des menaces de mort, c'est aussi ce qui a décidé Safiullah à fuir l'Afghanistan. Il a travaillé dans un bureau de vote au moment de la dernière élection présidentielle et on l'a accusé de travailler pour le gouvernement. Des talibans ou des djihadistes, il ne sait pas exactement. Son périple, il le raconte aujourd'hui facilement à ses nouveaux collègues. Serge Filouz, son responsable.
Il nous a tout simplement expliqué qu'il est venu d'Afghanistan à pied, il nous a parlé des passeurs, il nous a parlé un peu de Calais. Il parle de sa famille, il leur a expliqué qu'il téléphonait, il nous a expliqué plein de choses, qu'il avait laissé tout le monde là-bas, qu'il y avait les bombardements, enfin tout ça, Daesh, les talibans, enfin il y a des échanges.
Safiullah a obtenu le statut de réfugié politique pour 10 ans. Avec son salaire, il va pouvoir louer un appartement, une nouvelle adresse en Bretagne où il se sent désormais comme chez lui. Omid, lui, vient d'apprendre que le gouvernement britannique l'autorisait à rester 5 ans dans le pays. Ses premiers mois à Londres n'ont pas été faciles. Omid avait sans doute un peu trop idéalisé l'Angleterre. Il envisage de s'installer à Leeds, où le coût de la vie sera moins cher.
C'est un drame sanitaire qui a fait les gros titres en Russie à la fin 2016. À Irkoutsk, en Sibérie, près de 80 personnes sont mortes après avoir ingéré de l'alcool de substitution, une huile de bain contrefaite. Le maire de la ville a décrété l'état d'urgence et les stocks du produit incriminé ont été saisis. Un accident qui révèle que de plus en plus de Russes consomment ces alcools du pauvre, Étienne Bouche.
Pendant plusieurs jours, l'affaire des empoisonnements d'Irkoutsk s'est retrouvée à la une des journaux télévisés nationaux. Elle a même été abordée lors de la conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine. Le président russe a évoqué une terrible tragédie. Dans cette ville de Sibérie, l'alcool frelaté a fait près de 80 victimes. La responsable de cette hécatombe, c'est une huile de bain contrefaite, une huile imitant une marque d'essence d'aubépine. En Russie et particulièrement en province, les plus défavorisés ont tendance à se tourner vers des alcools de substitution. Des lotions cosmétiques, comme l'essence d'aubépine donc, des produits d'entretien ou de l'antigel pour voiture. Ce qui a provoqué ces empoisonnements, c'est que les flacons de cette huile contrefaite contenaient du méthanol, un alcool très toxique pour l'homme. Ces dernières années, la lutte contre l'alcoolisme en Russie a certes eu des effets positifs. La vente d'alcool a été interdite la nuit, le prix de la vodka a augmenté. Résultat, en 10 ans, la mortalité due à l'alcool a diminué de moitié. Mais la crise a entraîné un effet pervers. Au lieu d'acheter de la vodka, les dépendants les plus pauvres s'enivrent avec des productions du marché noir ou avec des articles vendus en pharmacie. Depuis la vague d'empoisonnement, des milliers de litres d'alcool frelaté ont été saisis. Différents points de vente ont été inspectés sous l'œil des caméras de télévision. Vladimir Poutine a ordonné au gouvernement de durcir les règles encadrant la vente des substances alcoolisées en pharmacie.
Le cannabis, une autre substance addictive pour l'instant hors la loi dans de nombreux pays et qui donne lieu à de nombreux trafics. En Albanie, sa production n'a cessé d'augmenter depuis la fin des années 90, à tel point que le petit pays des Balkans est devenu le premier producteur européen. Les nouvelles autorités se sont lancées dans une véritable croisade contre ce trafic. Mais face à la pauvreté et à la corruption, le combat semble perdu d'avance. Reportage signé Simon Rico.
Dames en heren, zit in een lazaret. Bonsoir.
Dit verplanten. We hebben het bij je kan zien.
Heb je even ingezoomd?
Dat zijn allemaal rietplanten.
Depuis l'été 2012 et ce film de vacances que deux jeunes Hollandais ont partagé sur YouTube, Lazarat est célèbre dans le monde entier. À la 25e minute de leur road trip à mobylette sur les routes albanaises, apparaissent des montagnes recouvertes de plants de cannabis. Ce village pauvre, proche de la frontière grecque, gagne alors le surnom de capitale européenne du cannabis. Un an plus tard, dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement social-démocrate part en guerre contre ce trafic. En première ligne, le jeune et ambitieux ministre de l'Intérieur, Saïmir Tahiri.
Now we are fighting more than...
Aujourd'hui, nous nous battons plus que jamais et nous obtenons de très bons résultats avec la collaboration de nos partenaires. Je pense que nous sommes sur la bonne voie pour remporter cette guerre une bonne fois pour toutes. On compte 35% de surface cultivée de cannabis en moins par rapport à 2013. Et à cette époque, la police n'avait détruit que 7,5% des plants sur les champs identifiés. Aujourd'hui, on est à 99%.
Identified. En 2016, près de 9000 policiers ont été déployés pour lutter contre le trafic de cannabis en Albanie. Environ 2,5 millions de plants ont été détruits et plus de 9 tonnes de drogue saisies. Cet automne, au moment de la dernière récolte avant l'hiver, les télévisions diffusaient même en boucle les images des opérations quotidiennes de la police. Malgré cela, la culture de cannabis continue de prospérer. Elle ne se limite plus au sud, c'est désormais tout le pays qui en produit. Pour le criminologue Fabien Gila, qui enquête depuis des années sur ce dossier, l'appât du gain reste plus fort que la peur du gendarme.
Le facteur économique, c'est la raison principale qui pousse les paysans à se tourner vers la culture de cannabis. L'Albanie, c'est un pays pauvre et la drogue leur assure de meilleurs revenus. La deuxième raison, c'est la forte demande européenne. Il y a un marché important du cannabis. Tout ça, ça incite les paysans albanais à produire.
Selon les informations de la police italienne, qui collabore étroitement avec les autorités de Tirana, rien qu'à Lazarat, le trafic de cannabis en 2014, c'était 900 tonnes produites pour une valeur marchande de 4,5 milliards d'euros, soit le tiers du PIB albanais. À 200 euros le kilo, plus que le prix d'une tonne de blé produit en France, les paysans albanais sont prêts à prendre tous les risques pour faire vivre mieux leur famille. Il ne s'agit donc pas seulement de se battre contre le cannabis, mais aussi contre la pauvreté, comme le confirme le ministre de l'Intérieur, Saïmir Tahiri.
Il s'agit d'une guerre contre la pauvreté, bien sûr. C'est une guerre aussi contre le chômage, contre tous les problèmes économiques et sociaux auxquels nous faisons face depuis longtemps. Le gouvernement a pris des mesures afin d'améliorer cela. Nous avons mis en place un vaste plan de développement économique pour l'agriculture, pour la cohésion sociale, pour faire comprendre aux habitants des zones rurales que la culture du cannabis n'était pas le bon chemin à prendre.
Au sein de la majorité socialiste, quelques voix discordantes se font néanmoins entendre. Le député Kocho Kokozima, qui dirige le grand quotidien Chekouli et que l'on dit proche du Premier ministre Edi Rama, est l'un des principaux défenseurs de la légalisation de la culture du cannabis pour un usage thérapeutique. Selon l'oligarque, cette activité très rémunératrice pourrait être un bon moyen de développer l'Albanie, dont le niveau de vie reste l'un des plus bas du continent européen.
Le cannabis est une opportunité que l'Albanie doit saisir pour booster son économie. Légaliser la culture du cannabis pourrait permettre d'offrir aux habitants de ce pays une vie meilleure. En procédant à la légalisation du cannabis, on diminuerait en effet la part de l'économie informelle dont les revenus vont exclusivement au crime organisé. Cela renforcerait de fait l'économie légale au détriment du trafic.
Le dossier explosif du cannabis est en tout cas le prétexte à une foire d'empoigne entre la majorité et l'opposition. Pendant que le Parti démocratique martèle que le gouvernement a transformé l'Albanie en Colombie d'Europe, les sociaux-démocrates rétorquent que leurs adversaires n'ont jamais inquiété les trafiquants quand ils étaient au pouvoir. Mais les Albanais ne sont pas dupes, ils savent bien que derrière ces joutes verbales se prépare la campagne électorale pour les législatives de juin prochain.
Ils sont très nombreux. 42% des Polonais, de toutes les tendances politiques, à accourir dans les paroisses aux 8 messes du dimanche, dans les campagnes comme dans les villes.
presque tous.
Extrait du documentaire de Françoise Ponce, l'Église polonaise sous haute pression, car même si les Polonais sont encore parmi les plus fervents pratiquants de l'Europe de l'Ouest, même si les soutiens au sein du gouvernement sont très forts, cette Église polonaise se cherche aujourd'hui, construite sur la résistance aux envahisseurs depuis 3 siècles, sur la résistance au communisme aussi, elle est mise au défi de la modernisation. Françoise Ponce avec Catherine Roland.
Effectivement, cette église fait partie de l'identité polonaise. Depuis les partages de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle, l'église polonaise en fait a soutenu le peuple polonais pendant toutes ces périodes des partages qui a duré près de 2 siècles. Et là, tous les Polonais se retrouvaient dans les églises et c'est là où l'église a permis à ce peuple de conserver sa culture et sa langue. Et ensuite, bon, sous le communisme, comme on le sait, évidemment, l'église a repris encore ce rôle de soutien des Polonais devant l'adversité, l'espace en fait de liberté se retrouver au sein de l'Église.
Alors, d'ailleurs, 92% des Polonais sont baptisés. Plus de 40% d'entre eux, toutes tendances confondues, aujourd'hui encore, voient la messe le dimanche.
Oui, les églises sont toujours très pleines. On se dit, mais finalement, ça n'a pas changé. Et seuls des initiés disent, non, maintenant, on peut s'asseoir dans les églises. Ce qui n'était pas le cas avant.
Voilà. Ouais, il y a quand même d'autres rassemblements très impressionnants qu'on n'imagine pas en Europe occidentale. Même en Italie, ça s'appelle Jésus au stade. C'est assez inimaginable en Europe de l'Ouest.
Ça, c'est une manifestation très impressionnante, puisqu'ils sont à peu près 60 000 à se réunir tous les 2 ans au stade olympique de Varsovie. C'est une initiative récente, c'est une initiative charismatique et c'est un prêtre ougandais qui vient prêcher la bonne nouvelle devant ces Polonais et qui adhère totalement à ce mouvement qui est charismatique.
Beaucoup de jeunes dans ce mouvement. Et en même temps, vous observez malgré tout, c'est le même phénomène dans toute l'Europe, que cette église touche de moins en moins les jeunes.
La tendance, effectivement, est à l'érosion. Mais il y a encore énormément de jeunes qui vont à l'église. Mais la grande terreur, effectivement, de l'épiscopat polonais, c'est de voir quand même cette fuite. Donc il faut qu'ils changent de langage. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, de le rendre beaucoup plus proche des expériences de vie, tout en restant très biblique, effectivement, ne pas perdre ce message, mais en étant beaucoup plus proche, moins directif, plus dans l'expérience. Et c'est pour ça où on voit aussi les dominicains attirent énormément. C'est très impressionnant parce qu'ils ont un autre langage, une écoute, les jésuites aussi, de même il y a des radios. Tout le monde se met à l'écoute pour garder ces jeunes et les soutenir aussi.
Oui, c'est un moyen pour donner l'impression d'une église moins directive parce que ce qu'on apprend aussi, c'est que cette église a eu du mal à apprendre la démocratie. C'était une église de résistance pendant le communisme. L'église catholique s'est construite d'ailleurs comme une forteresse.
En fait, après 89, cette église a eu du mal en fait avec la démocratie, avec toutes ces idées, ces gens qui étaient contre eux, enfin de savoir qu'ils étaient remis en question. Donc la hiérarchie a trouvé que c'était quand même assez ingrat de la part de ces Polonais de se dresser contre eux. Et du coup, il y a eu quand même un peu de difficulté en fait à s'ajuster et même l'évêque Rich de Cracovie reconnaît que ce n'est pas toujours facile. Voilà, comme on l'a vu dans la loi sur l'interdiction totale de l'avortement. Voilà.
Mais oui, ils ont d'ailleurs des alliés au pouvoir aujourd'hui, c'est le parti PiS, le parti droit et justice, très proche des positions conservatrice catholique. Est-ce que cette église n'est pas trop politisée aujourd'hui ?
Il est vrai que le PiS est proche des positions de l'église et que l'épiscopat ne pouvait pas voter pour plateforme civique puisque la plateforme civique avait pris des mesures extrêmement libérales avant en matière de fécondation in vitro, sur la convention sur la violence en famille, etc. Et puis, elle aspirait au fait à un libéralisme plus juste. Et donc, PiS correspond mieux, effectivement. Mais ce sont quand même 2 entités différentes, malgré tout. L'Église ne cherche pas à être non plus trop dans la main du PiS parce qu'elle s'adresse quand même à tous les Polonais. Et donc, ce serait vraiment l'erreur fatale de s'associer à un parti. Et c'est pourquoi, bon, elle a démontré, par exemple, dans cette affaire sur l'interdiction totale de l'avortement, elle a reculé. Et donc, elle s'est démarquée quand elle a vu que son propos avait accentué la division du peuple de Dieu.
Françoise Ponce, auteure du documentaire « L'Église polonaise sous haute pression ». C'est Françoise Grelot qui a réalisé et mis en onde cette émission. Accent d'Europe à retrouver demain dès 12h40 temps universel et tout de suite sur RFI.fr à la page émissions.